nous avons vu quatre aspects caractéristiques de Josaphat, et puis on va commencer ce soir à voir une, je dirais, la faiblesse dans la vie de Josaphat. Je ne sais pas si on va avoir aujourd'hui, ce soir, l'occasion de voir l'étendue des effets catastrophiques de cette faiblesse. Et en tout cas, on va ce soir commencer à voir la raison de sa faiblesse. Et on va commencer aussi à découvrir ce soir un deuxième roi. Alors, Josaphat, c'est le roi de Juda, vous vous rappelez. Juda, c'est le royaume du sud. Et on va découvrir, à la même période, il y a un autre roi, donc, pour le royaume du nord. Et il s'appelle Akab. Aïe. Alors, vous êtes en deux chroniques. On va lire le chapitre 18. On va quasiment lire tout le chapitre 18 ce soir. Si, on va tout lire et puis après on reviendra sur les détails. Alors, Josaphat eut en abondance des richesses et de la gloire, et c'est ça la faille, la faiblesse de sa vie. Il s'allia par mariage avec Akab. Alors, comprenez quand même le contexte, c'est pas lui qui s'est marié avec Akab. Ok. En fait, il a marié son fils à la fille du roi Akab. Et pourquoi est-ce qu'il est dit qu'il s'allia? Parce que, en fait, c'était la technique de l'époque. C'est une des raisons pour laquelle Salomon eut beaucoup de femmes. C'est qu'en contractant des mariages avec, soit eux-mêmes avec des femmes des pays étrangers, ils disaient, si je suis marié avec la reine de Belgique, c'est pas le roi de Belgique qui va m'attaquer. Vous voyez, voilà, c'était ce qu'on appelle des mariages arrangés pour se gagner des faveurs économiques, politiques et apaisantes. Donc c'est pour ça que le roi Salomon, lui, il a multiplié les mariages, et c'est vrai, il a eu la paix avec tout le monde. Et Josaphat, il s'est dit, voilà, avec le territoire du Nord, eh ben on va s'allier. Je te donne ma fille, je te donne mon fils. Et je le marie avec ta fille. Je vous le dis tout de suite, à son insu, Josaphat a fait là une alliance mortelle. Et on verra mardi prochain les conséquences incroyables de cette alliance. Mais ce soir, on va se concentrer sur le chapitre 18 et on va découvrir un peu le caractère d'Akab. Akab, on ne va pas voir toute sa vie non plus. Mais franchement, ce chapitre est caractéristique de la mentalité d'Akab. Verset 2. Au bout de quelques années, Josaphat descendit auprès d'Akab à Samarie. Et Akab tua pour lui et pour le peuple qui était avec lui un grand nombre de brebis et de bœufs. Bref, il fit faire la fête. Et le sollicita à monter à Ramoth en Galade. Akab, le roi d'Israël, dit à Josaphat, le roi de Juda, « Veux-tu venir avec moi à Ramoth en Galade » sous-entendu pour faire la guerre. Josaphat lui répondit, « Moi, comme toi, et mon peuple, comme ton peuple, nous irons l'attaquer avec toi. » Puis Josaphat dit au roi d'Israël, vous rappelez que Josaphat était quand même un homme pieux, « Consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. » Le roi d'Israël assembla les prophètes au nombre de 400, pas mal, hein, et leur dit, « Irons-nous attaquer Ramoth en Galate? Ou dois-je y renoncer ?» Et ils répondirent, les 400 dirent la même chose, « Monte, et Dieu la livrera entre les mains du roi !» Mais Josaphat dit, « Mais n'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter? » Parce qu'en fait, le roi d'Israël était un roi idolâtre. Il voulait bien tous les prêtres, toutes les religions, tous les systèmes religieux, mais absolument pas le Dieu de l'Éternel. Alors lui, il avait 400 prêtres, 400 prophètes, 400 bonhommes qui parlent au nom de Dieu. mais pas le vrai Dieu du ciel et de la terre. Et Josaphat, il voit ça, il dit, mais attends, mais il n'y a pas un seul homme de Dieu, là, parmi les 400, qui pourrait vraiment nous parler de la part de Dieu, quoi. Là, tes marionnettes, là, ils te disent des choses au nom de Dieu, mais ils ne sont pas vraiment inspirés de Dieu. Alors, regardez la réponse du roi. On est juste avant le verset 7. Le roi d'Israël répondit à Josaphat. Il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le déteste. Je le hais, car il ne me prophétise rien de bon. Il ne prophétise jamais que du mal. C'est Michée, le fils de Jimla. Et Josaphat dit, que le roi ne parle pas ainsi. Alors le roi d'Israël appela un eunuque, un serviteur, et dit, fais venir tout de suite Michée, le fils de Jimla. Le roi d'Israël et Josaphat, le roi de Juda, étaient assis chacun sur son trône, revêtus de leurs habits royaux. Ils étaient assis là, dans la place à l'entrée de la porte de Samarie. Et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Cet Esias, le fils de Kenana, s'était fait des cornes de fer. Il dit, ainsi parle l'Éternel, avec ses cornes tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. Vous imaginez la scène là, comment ça devait être folklorique. Et tous les prophètes prophétisaient d'eux-mêmes en disant « Monte à Ramoth-en-Galaad, monte, tu auras du succès, l'Éternel la livrera entre tes mains. » Vous allez vous rendez compte, vous avez 400 personnes là qui chauffent la salle. « Vas-y, c'est du bien, y arriver, tu vas voir, je vois avec les cornes de fer, oh, le spectacle ahurissant. » Le messager qui était allé appeler Michée lui parla ainsi. « Et Michée, tous les prophètes d'un commun accord prophétise du bien au roi. Alors que ta parole aussi soit comme la leur et annonce du bien. » Michée répondit, « L'Éternel est vivant, j'annoncerai ce que dira mon Dieu. » Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, imaginez l'ambiance, hein, il y a les 400 faux prophètes là qui gesticulent, l'autre avec ses cornes de fer, les deux rois dans leurs habits, assis sur leur trône, et Michée il arrive tout ça, tout penaud, tout le monde le regarde. Et lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit, « Michée, irons-nous attaquer Ramoth en Galaad ou dois-je y renoncer ?» Il répondit, « Oh, montez, vous aurez du succès, ils seront livrés entre vos mains !» Et le roi, sous-entendu qu'il comprenait l'ironie de Michée, le roi lui dit, « Combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de me dire que la vérité au nom de l'Éternel ? J'ai entendu, ne joue pas avec mes nerfs. » Michée répondit, « Ok. Je vois tout Israël dispersé sur les montagnes comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit, ces gens n'ont point de maître. Que chacun retourne en paix dans sa maison. » Le roi d'Israël dit à Josaphat, « Ne te l'ai-je pas dit ? Il ne prophétise sur moi rien de bon. Il ne me prophétise que du mal. » Et Michée dit, « Écoutez donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenait à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, « Qui séduira Akab, le roi d'Israël, pour qu'il monte à Ramoth en Galaad et qu'il y périsse ?» Ils répondirent, l'un d'une manière, l'autre d'une autre, et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, « Moi, je le séduirai. » L'Éternel lui dit, mais comment feras-tu cela ?»« Ben, je sortirai, dit l'esprit, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. » L'Éternel dit, « Tu le séduiras, et tu en viendras à bout. Sors, et fais ainsi. » Et maintenant, voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tes prophètes qui sont là. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Alors Sédécias prit Kenana, s'étant approché, frappa Michée sur la joue. Vous vous rendez compte? Le faux prophète, il prend là, il tape le vrai prophète de l'Éternel. Ah oui? Eh bien dis-moi, par quel chemin l'esprit de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler? Michée répondit, tu le verras le jour où tu iras de chambre en chambre pour te cacher. » Le roi d'Israël dit, « Prenez Michée et emmenez-le à Hamo, le chef de la ville, et vers Joas, le fils du roi. Vous direz, ainsi parle l'Éternel, ainsi parle le roi, mettez cet homme en prison et nourrissez-le du pain et de l'eau de l'affliction jusqu'à ce que je revienne en paix. »
Et Michée dit, « Si tu reviens en paix, l'Éternel n'a point parlé par moi. » Il dit encore, « Vous tous, peuple, entendez. »
Le roi d'Israël et Josaphat, le roi de Juda, montèrent à Ramoth en Galade. Le roi d'Israël dit à Josaphat, « Je veux me déguiser pour aller au combat. Mais toi, revêt tes habits. » Et le roi d'Israël, Akab, se déguisa et ils allèrent au combat. Le roi de Syrie, c'est celui contre qui ils allaient en guerre. Le roi de Syrie avait donné cet ordre au chef de ses chars. Vous n'attaquerez ni petits ni grands, mais vous attaquerez seulement le roi d'Israël. Quand les chefs des chars aperçurent Josaphat, ils dirent, « Mais c'est le roi d'Israël !» Et ils l'entourèrent pour l'attaquer. Mais Josaphat poussa un cri, et l'Éternel le secourut, et Dieu les écarta de lui. Les chefs des chars, voyant que ce n'est pas le roi d'Israël, s'éloignèrent de lui. Alors un homme tira de son arc au hasard et frappa le roi d'Israël au défaut de sa cuirasse. Le roi dit à celui qui dirigeait son char, « Tourne et fais-moi sortir du champ de bataille, car je suis blessé !» Le combat devint acharné ce jour-là. Et le roi d'Israël, Akab, celui qui s'était déguisé, fut retenu dans son char en face des Syriens jusqu'au soir. Et il mourut vers le coucher du soleil. Drôle d'histoire. Drôle d'histoire. Akab, c'est probablement un des pires rois que Israël ait pu avoir. Akab a la caractéristique de s'être marié avec une femme encore plus horrible que lui. En fait, Akab est le pire roi parce que c'était un roi faible. C'était un roi, on va dire, impuissant. C'était un roi qui se laissait manipuler par sa femme et sa femme était terrible. Sa femme, c'était une femme étrangère. Elle n'était pas du tout issue de la foi du Dieu d'Israël. C'était une idolâtre. Et non seulement elle était idolâtre, elle était païenne, mais il faut comprendre qu'à l'époque, l'idolâtrie de ces peuples allait jusqu'au sacrifice des enfants et de la prostitution, des choses comme ça. Ils construisaient des autels, ils invoquaient les dieux. Ils avaient notamment une divinité qu'ils appelaient Astarté. En fait, vous la connaissez, Astarté. C'est Marie. Si vous voulez connaître Astarté, vous lisez toutes les caractéristiques de Marie dans l'Église catholique. Et ben, en fait, c'est exactement les mêmes termes. Reine du ciel, etc., etc. À la fois mère, à la fois fille de Dieu. En fait, la Marie que l'on voit dans l'Église catholique, c'est la même que Astarté. Elle a juste changé de nom, mais sinon, c'est exactement la même. Mais donc, il y avait cette femme-là, était une divinatrice, une adoratrice de cette divinité, de Baal, d'Astarté. Et Akab s'était marié avec cette femme-là. Et cette femme-là était une femme, mais dure de caractère. Elle était méchante. Elle a cherché à tuer les prophètes de l'Éternel. Elle s'est pas contentée d'avoir sa petite foi pour elle dans sa chambre. Elle a voulu imposer l'idolâtrie dans tout le royaume. Elle a cherché à tuer les prophètes. Elle a imposé son mari le silence. Lui-même s'est entre guillemets tourné vers toutes ces idolâtries. D'ailleurs, c'est là qu'on le voit, combien il se laisse éblouir, enchanter, enthousiasmer par les faux prophètes. Et ça a été véritablement un règne horrible. Et Akab, sous son règne, vraiment a infesté un peu plus, a enraciné un peu plus Israël dans l'idolâtrie. Alors Akab, lui, se laisse entraîner. Il y a même des fois des situations d'injustice terribles, juste pour avoir le territoire voisin, pour faire son petit potager. Il a laissé sa femme faire des faux témoignages et tuer ce pauvre homme. Vraiment, Akab, si vous prenez le temps de lire sa vie, c'est vraiment un homme misérable. Mais on va voir un petit peu plus son caractère et sa mentalité là au travers de 3-4 points.
Vous avez vu que lorsque Josaphat a demandé de consulter un vrai prophète, un prophète qui a une véritable relation avec Dieu, quelqu'un qui reçoit les choses de la part de Dieu, il ne reste plus qu'un dans le royaume. Hein. Il ne reste plus qu'un homme. Dans tout le territoire du nord, vous vous rendez compte, si vous vous rappelez un petit peu, le territoire était bien plus grand que celui de Juda. Dans tout le territoire, il n'y en avait plus qu'un qui était plus ou moins connu. C'était Michée. Il y en avait d'autres, mais les autres étaient un peu plus cachés, justement à cause du contexte de persécution. Et quand il lui dit mais consulte-le, il lui dit je le hais. Vous vous rendez compte? Je le déteste. Je le haïs. Parce qu'il ne me dit jamais rien de bon. Je ne supporte pas ce gars-là. Chaque fois qu'il me parle, c'est pour me dire des reproches. C'est pas croyable. Chaque fois qu'il me voit, c'est pour me casser le moral. Moi, j'aimerais qu'on me dise des choses agréables. J'aimerais me dire que Dieu m'aime. Eh ben non. Lui, à chaque fois, il me dit qu'il faut que je me repente. À chaque fois que je le vois, il m'amène toujours à me parler des choses qui me contrarient. Alors, vous comprenez déjà dans la manière de parler que ce Akab, j'essaye un petit peu de le ramener à des rencontres qu'on pourrait faire au 21e siècle. C'est terrible, ces gens qui ne supportent pas d'entendre la parole de Dieu parce que la parole de Dieu les remet en cause. Ce qui est le plus terrible pour Akab, pour nous-mêmes, pour ceux qui pourraient entendre la vérité, c'est de ne pas comprendre le cœur de Dieu. Si on a bien lu l'histoire, Michée n'est pas venu pour faire des reproches à Akab. Il est juste en train de le prévenir que s'il va à la guerre, c'est un piège. Il dit même au peuple, n'allez pas le suivre. Vous n'allez pas revenir victorieux. Au contraire, vous allez être éparpillés. Lorsque Dieu veut nous préserver du péché, lorsqu'il nous demande de nous repentir, lorsqu'il nous demande de changer d'attitude, lorsqu'il nous demande de quitter toutes ces addictions, toutes ces choses qui nous séduisent, qui nous font plaisir, mais ce n'est pas de la frustration, ce n'est pas pour nous juger, ce n'est pas pour nous condamner, ce n'est pas pour nous pointer du doigt, ce n'est pas pour nous dire vraiment t'es un nul, c'est pas pour nous rabaisser, mais c'est pour nous préserver. La parole de Dieu n'est pas là pour nous rendre malheureux. Elle est là pour nous préserver des dangers de la vie. Elle est là pour nous préserver des larmes. Elle est là pour nous préserver de la mort. Et quelle tristesse quand des gens entendent la parole de Dieu et finissent par dire « Oh mais ça ne doit pas être triste de se convertir. On n'a pas le droit de faire ceci. On n'a pas le droit de faire cela. Oh non, non, non. Moi je préfère vivre ma vie. » Mais ce n'est pas du tout comprendre le plan de Dieu. Lorsqu'un papa, une maman dit à son fils « Non, non, ne mets pas ta main sur les plaques chauffantes, ce n'est pas pour le contrarier, c'est pour éviter que sa main soit brûlée, que toute sa vie, il ait les doigts collés par la chaleur. » Alors on peut le comprendre pour un petit enfant, mais Dieu veut prendre soin de nous comme des petits enfants. Dieu sait combien nous sommes fragiles. Dieu sait combien les circonstances de la vie peuvent détruire une existence. Dieu sait combien une petite addiction, un petit plaisir peut amener à des désastres pas croyables. Dieu sait qu'un simple petit joint peut amener à des drogues terribles. Dieu sait qu'un petit flirt peut amener à des accouchements ou à des avortements, à des familles qui se détruisent. Dieu sait que tout ce qui nous attire avec un petit flirt, allez un petit coup avant de partir, c'est rien, allez, t'es un homme. Et combien de ravages sur la route à cause de ce petit fleur, cette petite séduction, cette petite camaraderie qui fait plaisir. Dieu est là pour nous préserver de la chute. Dieu veut nous éviter que nous fassions du mal. La parole de Dieu n'est pas une contrainte. Elle n'est que douceur, elle n'est que prévenance. Nous sommes dans une société où Paul dit qu'à la fin des temps, les hommes aimeront le plaisir plus que Dieu. « Oh non, arrêtez là, vous êtes vraiment des rabat-joie vous là, on peut pas faire ça, faut pas faire ça, on peut pas s'amuser avec vous. Oh, c'est triste hein, ça va vraiment être triste la vie avec vous. Hein. » Mais c'est vous qui pleurez, c'est vous qui remplissez les tribunaux, c'est vous qui demandez les divorces, c'est vous qui pleurez sur vos enfants, c'est vous qui finissez par dire « Mais comment je fais, comment c'est possible ?»
C'est vous qui devenez complètement addict de vos sites, de vos pornos, de vos drogues, de vos alcools, de vos relations, de vos machines. C'est vous qui êtes obligé de vous inscrire dans des sites de rencontres de ceci, de cela. C'est vous qui vous-même en train de vous fourvoyer dans des voies qui vous rendent malheureux. Et vous dites, c'est pas heureux d'être un chrétien? Mais bien sûr que oui. Parce que le Seigneur nous communique la paix, nous communique la joie, nous communique la satisfaction. Et ce qui est le plus terrible, c'est que même parmi ceux qui invoquent Dieu, pardonnez-moi, Akab invoque Dieu. C'est pas un non-croyant. La preuve, il a 400 prophètes à son service. Ah oui, t'as raison, on va invoquer Dieu. Bon, Dieu, est-ce qu'il faut que j'y aille, est-ce qu'il faut que j'aille pas? Alors bien sûr, il a envie d'entendre des choses qui vont dans son sens. Mais méfions-nous du temps dans lequel nous sommes. Parce que dans cette société où les hommes cherchent le plaisir plus que Dieu, alors ils se donneront aussi, comme il est dit en 2 Timothée chapitre 4, une multitude de docteurs leur enseignant des choses agréables. Parce que les gens ne supporteront plus la saine doctrine. Ils ne supporteront plus qu'on leur parle de sanctification. Ils ne supporteront plus qu'on leur dise « Mais si, garde-toi avant le mariage, reste pur !» Oui, arrête! Ils ne supporteront plus d'entendre parler de soumission. Ils ne supporteront plus d'entendre parler d'ordre. Ils ne supporteront plus qu'il faut obéir. Oh, aujourd'hui, on est au 21e siècle. C'est pas la même chose. Mais l'homme, est-ce qu'il a changé? Depuis 2000 ans, 4000 ans, est-ce que l'homme a changé? Il n'a pas changé. Il a juste grandi. Il a perdu un peu de poil. Il s'habille en t-shirt. Mais c'est tout. Il est en basket. Il roule en voiture plutôt qu'à monter à cheval. Mais on n'a pas changé. Enfin, ça dépend à qui on regarde. Hein. Non, là, je blague. Mais faisons attention, parce que nous sommes dans une société où même au nom de Dieu, les gens commencent à dire des choses qui flattent, qui font plaisir. Ce dont nous avons besoin, c'est d'un message qui change les cœurs, qui change les vies, qui nous font vivre dans la vérité, dans la sainteté. Encore cette semaine, quelqu'un me disait, mais comment ça se fait? Cette femme-là, elle va à l'église tous les dimanches. Heureusement, je ne suis pas son pasteur. Elle va à l'église tous les dimanches depuis des années. Et quand elle est chez elle, alors là, elle refuse de pardonner, elle parle durement, elle est méchante avec les gens. Mais comment c'est possible? Que nous ne devions non pas des accabes avec notre croyance, nos petits prophètes qui nous disent des choses agréables, nos convictions, moi c'est comme ça, et puis si tu parles pas comme ça, bah, là, là, ça va pas. Toi tu parles mal, hein. Non, ça va pas. Je me souviens de cette chrétienne qui venait à l'église, qui dit, oh, vous savez, parce que moi j'aime quand on me dit que Dieu m'aime. À part qu'au moment de cette vie, c'était pas du tout ce dont elle avait besoin d'entendre. Mais c'est vrai qu'on pourrait avoir la tendance à aller dans le sens des gens. Parce que là, un visage avec un sourire, c'est toujours plus plaisant qu'un visage qui nous écoute qu'à moitié, qui fait si vraiment tu me saoules avec ton histoire. Mais nous devons réaliser que nous devons recevoir la parole comme des petits-enfants. Recevez la parole comme des enfants, disait l'apôtre. Parce que la parole n'est pas là pour nous contraindre, elle n'est pas là pour nous juger, elle n'est pas là pour nous condamner. Elle est là pour nous conseiller, nous entourer, nous encourager, nous stimuler aux choses qui nous seront utiles tout le long de notre vie. La Bible nous dit que la piété, elle est utile à toute chose. Tout. Pourtant, la conscience d'Akab travaille. Au verset 15, il va dire, vous savez quand Miché commence un petit peu à ironiser, qu'il commence à prophétiser comme les autres, enfin à parler comme les autres, qu'est-ce qu'ils ont? C'est même le roi qui dit, mais combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de me dire que la vérité au nom de l'Éternel? Donc même Akab sait que le prophète Miché est celui qui va parler au nom de l'Éternel. C'est ça qui est incroyable dans l'esprit d'Akab. C'est qu'il sait qu'il a 400 bonhommes qui lui parlent soi-disant au nom de Dieu. Quand Josaphat lui dit, mais attends, il n'y en a pas un qui va parler au nom de l'Éternel? Ouais, il y en a bien un, allez, fais-le venir, on verra ce qu'il va dire, mais de toute façon, il n'est jamais d'accord avec moi. Et pour cause, parce que Akab vit dans le désordre. Et quand Miché commence à... Bon, à dire autre chose que la parole de Dieu, là il sait. Il sait qu'il ne dit pas la vérité. Et c'est ça qui est incroyable avec les gens qui à la fois veulent de Dieu, mais ne veulent pas changer d'attitude, c'est que quelque part dans leur conscience, ils savent reconnaître ce qui est juste de ce qui est injuste. Ils savent reconnaître quand ils sont dans la vérité et quand ils sont dans l'erreur. Ils sont capables en eux-mêmes de reconnaître s'ils sont sur une mauvaise voie ou sur la bonne voie. Alors bien sûr, à cause du regard des autres, à cause du qu'en dira-t-on, à cause de la pression, alors ils vont bluffer, ils vont parler, ils vont prendre plein de statures arrogantes. La Bible nous dit que si nous savons que nous entendons la parole de Dieu, si nous savons que au plus profond de nous, ce que nous entendons, ce que nous lisons, c'est vrai. La parole de Dieu nous dit, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Arrêtons. Arrêtons cette lutte avec Dieu. Arrêtons cette conscience avec nous-mêmes. Si l'on sait le bien que l'on doit faire, je nous en supplie, faisons-le. Si nous savons que nous avons quelque chose à réformer, je nous en supplie parce que je me mets dans le même bain que vous. Faisons-le. N'endurcissons pas notre cœur. Arrêtons de résister. Arrêtons de nous donner des arguments. Arrêtons de calculer à la dépense. Arrêtons de commencer à dire oui, mais bon, peut-être que ça peut attendre demain. Non. Si la parole nous touche, nous savons ce que la parole nous demande de faire, que nous savons que ça vient de Dieu. Mais faisons-le tout de suite, maintenant. N'endurcissons pas notre cœur.
Akab, lui, non seulement il va tenir tête, il va laisser le seul prophète être frappé par un mauvais prophète sans lever la main, alors qu'en tant que roi, il devrait être au contraire le protégé. Et pire que ça, il va le mettre en prison. Ah oui, c'est facile. Hein. Vous savez, ce dicton qui dit que quand on veut tuer le chien, on dit qu'il a la rage.
On dit, en fait, on prétexte qu'il a quelque chose alors qu'il a rien du tout. Et puis comme ça, on le tue. Et puis on dit, oh, vous savez, il avait la rage, alors il a bien fallu le tuer. Mais c'est pareil. C'est tellement facile de... Oui.
Je me vois pourquoi Josaphat, en fait, il a rien fait.
Parce qu'il n'est pas sur son territoire. Ok. Josaphat, lui, est allé sur le territoire d'Akab. Et donc c'est Akab qui est roi sur son territoire. Donc effectivement, c'est pour ça qu'il suggère. Mais attends, excuse-moi, t'as pas un prophète qui pourrait parler? Mais il a aucune autorité, il peut pas. D'où ce dont je parlais tout à l'heure, de la faiblesse de cette alliance. Parce qu'effectivement, au travers de cette alliance, il s'est retrouvé. Alors là, il s'en sort plutôt bien, on connaît la suite de l'histoire. Et vous verrez par la suite que cette alliance va mener à une alliance mortelle. Mais évidemment, Josaphat, là, il n'est pas chez lui. Je veux dire, c'est comme quand on est invité chez les gens, si on voit une situation un peu bizarre, on ne fait pas de commentaires quand on n'est pas chez nous. On n'en pense pas moins, mais on évite de donner des leçons chez les autres. Et c'est exactement la situation de Josaphat. Alors Akab, quand même pour montrer que sa conscience travaille, parce qu'il a bien entendu Michée prophétiser. Il a bien entendu le prophète dire, tu sais, il y a une réalité spirituelle. Et en fait, cette guerre-là, elle est uniquement pour le fait de te tuer, toi. Si véritablement Michée croyait que... Si véritablement Akab croyait que Michée mentait ou qu'il disait n'importe quoi, il serait à la guerre plein de confiance. Mais c'est pas du tout ça. Au verset 15... Non, au verset 29, il est écrit que le roi d'Israël dit à Josaphat, « Je veux me déguiser. » Pour aller au combat. Mais toi, revêt-toi de tes habits. C'est-à-dire que Akab a dit, bon, je vais aller à la guerre, mais incognito. Je vais m'habiller comme un simple soldat. Comme ça, on ne saura pas que je suis le roi. Et soi-disant, la prophétie de Michée qui disait qu'il y aurait un mauvais esprit qui animerait cette guerre pour me détruire. On va bien voir qui va avoir raison. Moi, je vais me déguiser. Et si je suis déguisé, personne ne saura que je suis le roi. Et si personne ne sait que je suis le roi, bien malin celui qui viendra me tuer. Et voilà que Akab se déguise.
N'est-ce pas là aussi une réalité pour beaucoup de personnes qui se déguisent, qui portent des masques, qui ne font que de les apparences? Avec telle personne, on est tel individu, avec tel groupe, on se comporte comme ça. Telle personne nous connaît sous cet angle-là et avec un autre différemment. On est là comme des caméléons, on est là comme des pantins, on est là comme des acteurs, on est là comme des menteurs. On n'est jamais soi-même. Demandez même si on n'est pas des prostituées. Parce qu'on n'est jamais nous-mêmes, on est toujours là dans un jeu de rôle. On est toujours là, non pas un jeu drôle, mais un jeu de rôle. En train de chercher à paraître. Mais chaque fois qu'on est là dans une stratégie d'apparence, c'est toujours dans le but de séduire, de tromper, d'attirer, de gagner quelque chose de la relation avec qui on est. Quelle vie triste, quelle vie pitoyable. Parce qu'en changeant comme ça d'apparence, en se déguisant, on croit qu'on va s'en sortir, on veut sauver la face. On est malin. Oh, il a vu que du feu, comment je l'ai bien eu. Mais c'est une illusion. Parce qu'au plus profond de nous, on se sent sale. On se sent comme je disais tout à l'heure, comme une prostituée. On n'est jamais nous-mêmes. Nous-mêmes, on finit par se demander ce que l'on est réellement. À se déguiser, à n'être que d'apparence sur apparence, une langue, une autre langue. On est comme quoi? Comme des gens qui ne savons jamais être nous-mêmes. La Bible nous dit que le diable est le père du mensonge. Quelles que soient nos situations, ne cédons jamais au mensonge. Le mensonge n'est pas une solution. Le mensonge est un poison. Quelqu'un disait qu'un menteur n'est jamais suffisamment bon acteur. Parce qu'on finit toujours par oublier ses mensonges et on finit toujours par se laisser rattraper par nos mensonges. Mais là aussi, quand la Bible nous invite à vivre dans la vérité, dans la sincérité, dans la droiture, ce n'est pas un piège, ce n'est pas un jugement. Mais c'est pour vivre libre, pour vivre la conscience tranquille, pour avoir, comme dit Jésus, si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Libre dans sa tête, libre dans son corps, libre dans les relations avec les autres, libre dans son arrière-pensée, libre dans notre vie, dans notre respiration d'âme, dans notre capacité enfin de se regarder dans une glace sans avoir envie de cracher ou de casser la vie qui représente notre identité. Le mensonge n'amène qu'à la pauvreté de l'âme. Et on finit par être comme Akab. À mourir dans notre déguisement. Alors bien sûr, je ne parle pas d'une mort physique là. Mais quand on vit dans le mensonge, quand on vit dans les apparences, quand on croit sauver sa face en se camouflant, intérieurement nous mourons. Et nous mourons derrière nos apparences. Nous mourons. Nous finissons par nous détester. Le soleil se couche sur nos vies. Les choses deviennent ténébreuses, les choses deviennent fermées, étriquées. Il n'y a pas d'avenir. Parce qu'on sent bien que plus on ment et plus on s'enferme. Au début, on a l'impression de trouver des solutions, mais on s'aperçoit vite qu'on s'est fermé d'autres portes. On se ferme des contacts. Et c'est là que la mort vient de plus en plus. C'est pour ça que quand la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort, c'est exactement ça. Ne cédons jamais au mensonge. C'est un piège, c'est un poison mortel. C'est vrai que dans cette histoire, Josaphat s'en sort pas mal. Mais n'empêche que il a frôlé la mort. Il a frôlé la mort dans cette histoire, Josaphat. Les soldats syriens l'ont entouré. Ils ont vu un roi, ils ont dit « Oh, c'est lui !» Ils ont commencé à tirer les flèches et au dernier instant, au moment où il a crié « Ah !» Le récit est encore raconté dans l'histoire premier ou deuxième livre des rois, je ne sais plus. Et là, il paraît, c'est raconté comme ça, qu'en tirant, l'archer a dévié son arc et la flèche, elle est tombée pile là où il y avait une faiblesse dans la cuirasse de l'habit d'Akab. Pas de peau quand même. C'est vraiment pas de peau. Il se déguise, il se camoufle. Il fuit comme tout le monde.
Et la seule flèche qui... Elle arrive où? Comme par hasard, là où c'est le plus fragile.
Vous avez compris qu'il n'y a pas de hasard? Vous avez compris que c'est exactement l'accomplissement de la prophétie? Parce que la parole de Dieu s'accomplit toujours. Vous pouvez vous cacher, vous pouvez vous dissimuler, vous pouvez vous déguiser, vous pouvez mentir, vous pouvez paraître aux yeux des hommes tout ce que vous voulez, vous pouvez chercher tous les stratagèmes humains que vous voulez. Mais on ne peut pas se défiler aux yeux de Dieu. Un dicton africain dit que Dieu voit une souris noire sur une pierre noire dans une nuit noire. Alors nous qui sommes bien blancs, on est foutus. Et il lit dans nos cœurs comme dans un livre ouvert. Mais faisons attention, ne laissons pas le diable nous tromper. En disant ces paroles-là, ne croyons pas que Dieu lit dans notre vie pour nous condamner. Dieu lit dans notre cœur et il voit la souffrance qu'il y a dans notre cœur. Dieu sait très bien que lorsque nous mentons, c'est que nous fuyons quelque chose. Nous avons peur de quelque chose. Nous craignons la réaction des gens. Nous craignons qu'ils ne nous estiment pas tels que nous sommes. Nous craignons qu'ils nous méprisent. Nous nous accrochons au travers d'un mensonge à un groupe auquel on aimerait appartenir parce qu'en fait on se sent seul, on se sent démuni. Dieu sait que toutes les fois que nous allons vers le péché, c'est parce que nous cherchons à combler un vide intérieur. Quand je dis qu'on ne peut rien cacher à Dieu, c'est pas pour nous dire qu'il viendra nous chercher pour nous punir, pas du tout. Bien au contraire, cela est une invitation à laisser notre cœur ouvert, à reconnaître ce que nous sommes et à dire: Seigneur, s'il te plaît, viens me sortir de ma pauvreté, viens me sortir de mon impuissance, viens me sortir de mon mensonge, viens me sortir de ma pauvreté, viens me sortir de ma tristesse, viens guérir les blessures qui sont au-dedans de moi. Ce ne sont pas les choses du monde qui guériront votre cœur. Mais il n'y a que la compassion de Dieu, l'amour de Dieu, la bonté de Dieu. Et vous savez, je crois que si Josaphat est sorti indemne de cette guerre, et j'ai même envie de dire miraculeusement, parce que honnêtement, c'est quand même assez rare que dans un combat, le chef de l'armée ne dise: bon, on fait la guerre, mais il n'y en a qu'un qui m'intéresse, c'est le roi. Souvent, quand on fait la guerre, hein, on ne regarde pas trop, hein. Demandez aux Américains, ils regardent pas trop. Hein. Enfin, on zigouille. Et puis dans le tas, oh, on en a eu un. On a bien eu un. Hein. Et puis autour, c'est... Sachant que dans la guerre, il n'y a jamais de gagnant. Il n'y a que des perdants, il n'y a que des morts. Il n'y a pas de gagnant dans une guerre, pas de gagnant. Il n'y a que de la détresse, c'est tout. Et là, miraculeusement, Josaphat s'en sort. Mais d'ailleurs, c'est bien dit. Hein. L'Éternel le secourt. Je crois que Josaphat a pu échapper de ce piège parce que Josaphat était un homme droit devant Dieu. On l'a vu plus d'une fois, c'est un homme qui est attaché à la parole de Dieu, c'est un homme qui t'a attaché à la justice sociale. C'était un homme qui a bâti l'œuvre de Dieu, qui avait le souci de l'œuvre de Dieu. Et donc, il y avait une grâce qui reposait sur sa vie. Mais ne jouons pas avec nos alliances. Ne jouons pas. La Bible nous prévient que les mauvaises fréquentations corrompent nos bonnes habitudes. On ne peut pas s'amuser à des choses saines avec des gens malsains. Et ne croyons pas qu'avec des gens pervers, leur perversité ne nous atteindra pas assez. Il n'y a pas forcément besoin de rencontrer du monde pour ça. La télé elle-même s'invite dans nos maisons. Faisons attention à ce que nous regardons, à ce que nous entendons. La perversité rentre chez nous sans que nous ayons ouvert la porte de la maison. La pollution pour notre âme, pour notre cœur, passe par nos ordinateurs. Ne nous laissons pas avoir par des fausses alliances. Par des alliances de connivence, de sympathie.
de compromission. La Bible nous demande d'être sans mélange, d'être vrai, d'être authentique. Que au travers de l'exemple de Josaphat et d'Akab, nous puissions nous mettre en garde pour nos propres vies. Et puis nous verrons qu'effectivement, Josaphat, dans cette histoire, s'en est bien sorti. Mais nous verrons mardi prochain que cette simple alliance qui là l'a amené sur un terrain dangereux aurait pu... Comment ?
Mercredi.
Mercredi. Parce que je suis bloqué sur mardi, moi. Là. À mercredi, que cette alliance-là, qui pour sa vie n'a pas paru si terrible, amènera des conséquences bien, bien, bien plus conséquentes. D'ailleurs, vous regarderez dans au chapitre 19, ce qui est triste dans l'histoire de Josaphat, c'est qu'après être rentré de la guerre, il y a un prophète qui va lui parler et qui dit mais t'as fait quoi là tu... Est-ce que c'est normal de soutenir le méchant comme tu l'as fait? Il le prévient bien, il dit bon, c'est bien parce que tu as fait de bonnes choses que l'Éternel ne tient pas rigueur, mais un prophète va voir Josaphat et lui dire ce que tu as fait là, c'est pas bien. C'est pas bien. Tu as soutenu le méchant et ce n'est pas ta place. Et quelques années après, Josaphat va refaire une alliance. C'est pour ça que je vous parle d'une faiblesse dans la vie de Josaphat. Et il va s'engager à fabriquer des bateaux. Encore avec un des fils d'Akab. Encore un méchant, encore un idolâtre, encore un gars qui fait des choses qui détruisent, qui salissent le nom de Dieu. Et Josaphat va encore faire alliance avec lui pour fabriquer des bateaux. Et là, Dieu, vous savez ce qu'il va faire ? C'est Dieu lui-même qui fait couler tous les bateaux. Et là, Josaphat, il se gratte la tête. Et quand son copain vient dire « Allez, on recommence !» Il dit « Non, c'est bon, là. Ça suffit, là. J'ai assez donné. » Mais faisons attention. Parce que par sympathie, par alliance, par connivence, on a tant du mal à dire non. On accepte. On dit « Ok. » Mais savoir dire non, c'est aussi une force. Pas parce qu'on est chrétien qu'on doit dire oui à tout. On doit aussi apprendre à dire non. Faisons attention à nos relations et sachons dire non. Non. Amen.